Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 1er mai, on vous offre un brin de muguet.
Je porte de bonheur, messieurs dames. Pour vous, messieurs dames. Allez, on est là. Premier jour de muguet. C'est bonheur, bonheur, bonheur.
Mais cette journée ne s'annonce pas franchement bucolique à Paris, placée sous haute surveillance. La foule converge en ce moment en gare Montparnasse où le défilé des syndicats et des gilets jaunes partira dans 2 heures. 35 personnes ont été interpellées ce matin. Et puis nous irons aussi à Marseille où la CGT a fait la démonstration de la convergence des luttes. Dans RTL Midi aussi, nous vous raconterons l'histoire du fantôme de l'hôpital de Dax qui finalement n'avait rien d'une apparition. Provocatrice pudique, Anémone avait ce génie d'un comique touchant. C'est par ces mots qu'Emmanuel Macron rend hommage à l'actrice décédée à l'âge de 68 ans. Ses amis du Splendide vous dévoileront aussi sa passion cachée. Et puis nous passerons à table, mais sans beurre. Les Français en consomment de moins en moins au profit de la margarine ou de l'huile d'olive. Nous verrons ce que cela change avec un nutritionniste, le docteur Cocol. Le PSG champion, mais défait hier soir encore à Montpellier. Et les ennuis de Neymar et de Mbappé ne sont pas terminés. L'entraîneur Thomas Tuchel en est déboussolé. La météo, bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Un 1er mai sous le soleil.
Oui, c'est plutôt agréable cet après-midi avec le soleil sur une bonne partie du pays. Ça se voile quand même par l'ouest avec une dégradation qui va arriver dans l'après-midi. Ciel de plus en plus nuageux sur la côte atlantique avec quelques averses et localement une petite activité orageuse. Des averses également sur la chaîne pyrénéenne et sur la Corse. Et les températures douces pour cet après-midi, on en profite. Ça va changer à partir de demain et surtout pour ce week-end avec le retour des averses et d'une fraîcheur très marquée cet après-midi. 23 à Toulouse, 20 degrés à Strasbourg, 18 à Paris et Nice et 14 degrés au Havre.
La question du jour sur RTL.fr à propos des manifestations du jour. Regrettez-vous l'absence d'unité syndicale? Vous êtes très partagé. 42% de oui, 46% de non. Vous pourrez échanger vos arguments au 32-10 après 13h avec Pascal Praud. Bonjour.
Bonjour Christelle. Le 1er mai à Paris ou en région, Anémone au programme des auditeurs.
RTL Midi.
Les syndicats ne veulent pas se faire voler leur 1er mai, dont le défilé est une tradition dans notre pays depuis 1890. Les ouvriers arboraient alors un triangle rouge à la boutonnière. Aujourd'hui, l'ambiance est plutôt rouge, jaune et noir, avec le risque des casseurs. La CGT, la CFDT ou encore Force ouvrière espèrent que les violences ne viendront pas brouiller leur message dans plus de 200 villes. Direction tout de suite Marseille, où la mobilisation était forte ce matin au départ du Vieux-Port, avec Étienne Baudu un parfum de convergence des luttes avec les gilets jaunes.
Oui, alors un parfum qui n'est pas enivrant non plus, hein, car c'est bien la CGT qui ouvre le cortège et aucun gilet jaune ne tient la banderole des revendications. Des gilets jaunes qui sont pourtant bien là, en nombre, et oui, la convergence jaune et rouge est devenue une nécessité, explique Stéphanie.
Tout le monde doit se battre ensemble, parce que seul, on n'y arrive jamais, la CGT seule n'y arrive pas, nous seuls, on n'y arrive pas, tous les autres partis pour la Terre, pour la planète, voilà, on n'y arrive pas, il faut que tout le monde s'allie et que tout le monde se batte pour les mêmes choses, pour faire sauter le système actuel.
Alors du côté de la CGT, on parle aussi d'une nécessaire convergence que les propositions du président de la République n'ont d'ailleurs pas désamorcé, bien au contraire. Vincent arbore un gilet jaune, mais il a collé dessus l'autocollant de son syndicat.
Depuis le départ, oui, la CGT a toujours porté des valeurs propres à ce que les gilets jaunes demandent depuis le 17 novembre. Quoi. C'est simplement de l'enfumage total ce qu'il dit ce gars. C'est immense en permanence.
A noter également en fin de cortège la présence de Jean-Luc Mélenchon et de Manon Aubry, la tête de liste de la France Insoumise à l'élection européenne, et les revendications sont identiques.
Celle notamment de la hausse des salaires. On a quand même entendu la hausse du SMIC dans les revendications et sur les panneaux ces dernières semaines, ces derniers mois, et le gouvernement n'en a rien fait.
Et ce sont donc que plusieurs milliers de personnes qui défilent en ce moment sous le soleil dans les rues de Marseille.
Étienne Baudu à Marseille pour RTL. Paris est désert ce matin avec des forces de l'ordre postées un peu partout dans la capitale et des blindés de la gendarmerie place de l'Étoile. Le défilé syndical doit partir à 14h30 de la gare Montparnasse direction place d'Italie. 7000 forces de l'ordre sont mobilisées pour assurer la sécurité. Anne Luenaf, vous êtes sur place pour RTL et à 2h du départ, oui, il y a déjà foule.
Oui, ça fait plusieurs heures que les gens convergent jusqu'ici au pied de cette grande tour Montparnasse sous le soleil. Et dans une forte odeur de saucisse, il y a beaucoup de gilets jaunes, comme cette petite quinquagénaire et ses deux couettes blondes qui a écrit dans son dos
Jusqu'au bout.
Ben, s'il faut retourner Paris, s'il faut tout déglinguer, s'il faut tout casser, s'il faut aller le chercher chez lui, si je sais pas. Mais on ira jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il démissionne.
Malgré tout, on finit par adopter la violence, parce qu'eux, ils nous font de la violence, que ça soit social ou autre. Il va nous donner d'une main, mais il nous dit pas comment il va reprendre de l'autre. Il va nous donner 20 euros là, il va nous repiquer 100 là. Mais il nous prend pour des quiches.
Alors il n'y a pas que des gilets jaunes ici, hein. Il y a aussi des gens tout de noir vêtus qui ont déjà mis leur casque, leur foulard et leurs lunettes. Les policiers bloquent la place derrière leurs boucliers et puis les équipes de secours en blanc mangent leur casse-croûte comme si tout le monde ici se préparait à une longue, très longue journée.
Anne Le Hénaff à la gare Montparnasse pour RTL. Pas de violence donc dans la capitale pour l'instant, mais déjà des interpellations. 35 d'après la préfecture de police. Quels sont les profils, Guillaume Chiez ?
Eh bien, il s'agit d'interpellations préventives. Des personnes qui se sont rendues sur les lieux de rassemblement avec des objets prohibés, des armes par destination. Depuis hier soir, des contrôles ont lieu aux entrées de la capitale, dans les gares et sur la route. C'est d'ailleurs dans une voiture que les policiers ont interpellé trois étrangers, a priori des Espagnols et des Allemands. Trois hommes considérés comme de potentiels black blocs dans leur voiture. Des bonbonnes de gaz, des jerrycans, plusieurs marteaux, sécateurs, masques à gaz. Les services de renseignement avaient déjà évoqué la possibilité que les Black Blocs français soient rejoints par des Espagnols, des Allemands ou des Italiens. Les trois hommes ont été interpellés et placés en garde à vue.
Guillaume Chiez avec nous. Jérôme Coumet, maire d'hiver gauche du 13e arrondissement de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Cette journée est classée à haut risque par les autorités. Est-ce que vous êtes inquiet ?
Évidemment, je suis inquiet parce que je me souviens du 1er mai dernier où il y a eu pas mal de casses à la limite des 13e et 5e arrondissements. Un McDonald's avait brûlé et puis une concession automobile avait été dévastée. Et donc, évidemment, je me souviens de cette journée toute particulière et j'ai évidemment quelques inquiétudes pour aujourd'hui.
Oui, d'autant que le point d'arrivée, c'est chez vous, hein, dans le 13e, place d'Italie. On sait que c'est traditionnellement, on sait que c'est traditionnellement le moment où les casseurs se déchaînent. Donc, vous craignez des débordements à la fin de la manifestation ?
Oui, comme toutes les manifestations qui ont pu dégénérer ces dernières semaines. Hein, les Parisiens ont subi, il ne faut pas l'oublier, 26 semaines de manifestations avec pas mal qui ont dégénéré, avec un coût aussi important pour la ville de Paris et un coût en termes d'image qui sera difficile à rattraper dans les mois qui viennent.
En tant que maire, quelles mesures de sécurité avez-vous prises dans votre arrondissement ?
Pour ce qui nous concerne, on a regardé tout ce qui était sur la voie publique. Hein, ça fait partie de l'attente du don du son. Place d'Italie a dû déménager, mais aussi les chantiers, on les a sécurisés au maximum. Il y avait un grand chantier de ravalement qui avait commencé à s'installer sur la mairie et on a dû complètement le démonter et l'enlever parce que, évidemment, nous ne voulons pas laisser des armes par destination traîner sur l'espace public. Maintenant, je considère qu'on ne peut pas tout sécuriser et donc on fait notre maximum mais on ne peut pas tout éviter.
Est-ce que vous êtes allé à la rencontre des commerçants, des restaurateurs et si oui, que leur avez-vous dit ?
Oui, bien sûr. Alors, il y a une demande de la préfecture de police qui n'est pas anodine, hein, qui est même exceptionnelle, de fermeture sur tout le cortège de la manifestation. Généralement, on demande d'enlever juste les terrasses. Le préfet de police a demandé la fermeture de tous les établissements. Et donc, on a fait la tournée des commerçants pour leur rappeler qu'il s'agissait d'un arrêté préfectoral qu'il convenait de respecter.
Et que vous ont-ils dit ?
Bon, le 1er mai, il y en a beaucoup qui ferment, mais effectivement, il y a quelques restaurateurs ou quelques cafés à qui ça peut poser des problèmes. Hein. Nous en sommes tous conscients, mais je pense qu'il faut faire ses efforts pour éviter tout débordement. En tout cas, c'est ce que nous allons tous essayer aujourd'hui.
Que dites-vous aux Parisiens aujourd'hui de limiter leurs déplacements, de rester chez eux ?
Oh non, on n'en est pas là, mais en tout cas de regarder la carte des stations de métro fermées, parce qu'il y en a pas mal.
Il y en a
beaucoup.
Donc
ça provoquera évidemment un certain nombre de difficultés. Non, il ne faut pas rester terré chez soi. Le 1er mai est une fête, il faut que ça reste une fête. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, à la fin de la manifestation, place d'Italie, je pense qu'il vaudrait mieux ne pas être présent, en tout cas pour ceux qui ne défilent pas, qui ne manifestent pas.
Ce que vous craignez le plus, c'est que des manifestants refusent de se cantonner au parc. Cours prédéfini, j'imagine.
Oui, mais il y a un déploiement de policiers tout à fait exceptionnel. Hein. Le ministre annonce 7400 policiers et gendarmes présents à Paris. Et donc, pour le coup, j'imagine qu'ils se sont donné le moyen de maintenir l'ordre correctement. Maintenant, j'attends de voir comment les choses vont se dérouler, évidemment, avec une pointe d'inquiétude, je ne le cache pas.
Voilà. Prudent mais inquiet. Merci Jérôme Coumet, maire d'hiver gauche du 13e arrondissement de Paris. Merci d'avoir été l'invité de RTL Midi. L'an dernier, c'est depuis l'Australie où il était en visite qu'Emmanuel Macron avait découvert les saccages dans les rues de Paris. Cette fois-ci, il est à l'Élysée. Il donne même en ce moment une réception en l'honneur de la formation professionnelle des métiers de bouche et des fleuristes. Une pause et dans un instant, l'histoire du fantôme de l'hôpital de Dax.
RTL Midi. Une info vous intéresse et vous souhaitez en savoir plus?
Retrouvez les dossiers de la rédaction sur rtl.fr.
Bonjour, c'est Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre sur RTL.
On les aime tellement, on est si fiers d'eux qu'on a envie de partager les moments inoubliables qu'ils nous font vivre. Mais exposer ses enfants sur les réseaux sociaux est-il de l'inconscience? Si tout part d'un bon sentiment, ne faut-il pas s'interroger davantage? On fait le point cet après-midi entre 15h et 16h dans On est fait pour s'entendre sur RTL.
On a la solution pour vos repas de fête. En revanche, pour la musique de votre beau-frère,
Bonne nouvelle! Pour vos petits et grands événements, en famille ou entre amis, votre restaurant Flunch fait aussi traiteur. Vous composez vos menus buffets et cocktails sur flunchtraiteur.fr 7 jours sur 7, vous cliquez et vous régalez vos invités. Et bien sûr après flunchant. Y'a que chez Flunch qu'on peut fluncher. Commandez sur flunchtraiteur.fr.
Résisterez-vous au plaisir d'essayer une Peugeot?
Sentez-vous libre à bord du SUV Peugeot 2008. Engagez-vous sur ce chemin grâce au Grip Control. De retour en ville, garez-vous facilement avec le Parc Assist. Et à la fin de votre essai, vous n'aurez qu'une envie, repartir avec votre SUV Peugeot 2008.
En ce moment, le SUV Peugeot 2008 est à partir de 14 990 euros. Et pendant les Driving Days, bénéficiez d'une prime à l'essai de 200 euros en plus. Détails sur Peugeot.fr.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Un fantôme à l'hôpital de Dax, plus précisément en gériatrie. Des phénomènes inexpliqués et inquiétants s'étaient multipliés. Il a fallu 2 mois d'enquête pour se rendre compte, Jean-Alphonse Richard, que le phénomène n'avait rien de surnaturel.
Ah oui, puisque sous le drap de ce fantôme qui, depuis le mois de février, épouvantait l'hôpital de Dax et faisait frissonner toute une ville, se trouvait en fait la silhouette d'une employée qui jusque-là n'avait jamais attiré l'attention. C'est elle qui serait donc à l'origine de ces phénomènes surnaturel apparu derrière les murs de l'établissement, ces portes et ces fenêtres qui claquent en pleine nuit, cette couverture qui se soulève d'un seul coup au-dessus du lit d'une personne handicapée totalement traumatisée, ces chaises qui semblent se déplacer toutes seules dans les couloirs, une présence surnommée Belphégor, référence à une série télé des années 60 qui va donner du fil à retordre au commissariat, ronde nocturne, planque discrète pour surprendre l'insaisissable fantôme, planning du personnel passé au crible et vidéo surveillance, une caméra aurait finalement filmé l'employé entrant dans une chambre, retrouvée le lendemain sans dessus-dessous. Cette femme, la trentaine, ni les faits, elle est placée sous contrôle judiciaire pour violence sur personne vulnérable.
Voilà, le fantôme, c'était peut-être fantomette. Merci Jean-Alphonse. Près de 3 ans après l'attentat de Nice, le 14 juillet, qui avait fait 86 morts et 400 blessés, Christian Estrosi, le maire, et son premier adjoint Philippe Pradal ont été entendus hier par la justice, car l'enquête se poursuit sur les mesures de sécurité qui avaient été mises en place ce jour-là. Ils ont été entendus en tant que témoins assistés. Michael Lefebvre, qu'est-ce que ça signifie ?
Oui, c'était un souhait des victimes et de leur famille. Christian Estrosi, premier adjoint chargé de la sécurité, et Philippe Pradal, maire de Nice à l'époque, ont finalement été entendus par la justice dans l'enquête sur les mesures de sécurité mises en place lors de ce funeste 14 juillet 2016. Ils ont été entendus sous le statut de témoins assistés. Selon un communiqué de la mairie, les deux responsables niçois ont pu répondre à toutes les questions permettant de contribuer à la manifestation de la vérité et ainsi apporter des réponses aux interrogations légitimes des victimes et de leurs familles. Les deux juges d'instruction chargés de cette enquête pour mise en danger de la vie d'autrui envisagent d'ailleurs de la requalifier en homicide et blessure involontaire. Ils s'intéressent également à l'utilisation de la vidéosurveillance les jours précédant l'attentat, quand le terroriste avait plusieurs fois roulé sur la promenade des Anglais avec son 19 tonnes pour y faire des repérages sans être inquiété. Début avril, François-Xavier Loche, ancien directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes et actuel chef de cabinet d'Emmanuel Macron, avait lui aussi été entendu dans cette affaire. Il avait reconnu devant les juges avoir joué un rôle clé dans la validation du dispositif de sécurité, mais il avait aussi assuré n'avoir jamais envisagé la menace d'un camion bélier ce soir-là.
Michael Lefebvre. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido appelle ses partisans à poursuivre les manifestations. Elles ont pourtant été durement réprimées par des blindés à Caracas, faisant au moins 69 blessés. Le président Maduro a ironisé sur, je cite, une escarmouche putschiste ayant échoué. Elle aimait jouer, mais détestait la célébrité. Grande gueule souvent, mais surtout ultra sensible. L'actrice Anémone, inoubliable Thérèse du Père Noël est une ordure, est décédée hier à l'âge de 68 ans. On se souvient aussi du grand chemin qui lui avait valu le César de la meilleure actrice. Emmanuel Macron a salué sa force comique, son talent, une actrice drôle, émouvante et farouchement libre. Ce matin sur RTL, Gérard Jugnot, Marianne Chazelle et Richard Berry se sont souvenus aussi de son avidité de lecture.
Elle passait son temps à lire, c'est-à-dire qu'elle était, voilà, elle lisait tout le temps, en voiture, en train, en avion, même avant de rentrer en scène, entre deux scènes, elle lisait, elle était vraiment...
Elle lisait, je me souviens d'elle lisant Saint-Simon, elle était entre les prises, elle avait Saint-Simon et elle lisait Saint-Simon.
Oui, ou Point de vue mal du monde, ça dépendait.
Oui, ou Point de vue, c'est vrai qu'elle adorait les histoires de princesses.
Gérard disait, elle lisait Point de vue, Image du monde, mais elle lisait des bouquins nuls. Elle prenait n'importe quel bouquin pourri. Alors évidemment, c'était difficile d'échanger autour du livre, mais elle trouvait intéressant de lire un livre inintéressant.
Oui. C'est-à-dire que... Et puis elle faisait toujours un petit résumé après, quand elle avait lu quelque chose. Elle donnait toujours son point de vue, qui était généralement extrêmement... je dirais pas peu objectif, mais extrême, très entier.
C'était elle, quoi. Elle était comme ça.
Quel caractère. Donc, hommage de Gérard Jugnot, Marianne Chazelle et Richard Berry ce matin autour d'Yves Calvi.